France Inter.
La surveillance de masse.
Ça me fait penser à la Chine.
Ouais, sans pour autant aller à la Chine, t'as les JO 2024. Ils ont autorisé un dispositif de surveillance en amont, pendant et après, avec des vidéocaméras, etc. Donc pas forcément à la Chine, peut-être même en France. Hein.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un numéro particulièrement feel good de Zoom Zoom Zen aujourd'hui, puisqu'on va se demander si le concept de vie privée a encore un sens ou bien si c'est définitivement foutu parce que Google nous connaît mieux que nous-mêmes. Zoom aujourd'hui sur un phénomène orwellien devenu réalité et de manière plus insidieuse encore que dans 1984, car globalement on est consentant la surveillance de masse. Une surveillance qui va donc de celle des GAFA, qui savent tout de nous puisqu'on signe des contrats d'un clic sans jamais lire une ligne des conditions générales, à la surveillance plus tangible des caméras. Il y en a par exemple déjà plus de 4000 à Nice, au cas où un vieux traverserait en dehors d'un passage piéton. Paf ! Coup de taser à la Tévenou. Sans parler de la surveillance militaire qui s'est considérablement modernisée depuis l'époque archaïque où Cyril Lacarrière espionnait les communistes pour le compte du FBI. Déguisé en babouchka chargé de l'entretien à l'ambassade soviétique, l'enregistreur planqué dans le slibard et un microfilm suppositoire au cas où il se ferait prendre. Oui. On était loin des drones et de l'intelligence artificielle appliquée à la reconnaissance faciale. C'est néanmoins en expert du renseignement que Cyril va aborder cette émission, dont il aurait pu d'ailleurs quasiment être l'invité.
Quasiment.
Histoire d'être sûr que ce soit intéressant, j'ai néanmoins préféré inviter quelqu'un d'autre. Zoom Zoom Zen spécial surveillance de masse, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il n'a jamais eu à faire disparaître un microfilm compromettant dans les toilettes de l'ambassade de Russie, mais pourtant je peux vous dire qu'il connaît son sujet. Bonjour Olivier Tesquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes journaliste à Télérama, excellent magazine avec un goût très sûr, on ne le dira jamais assez. Depuis 8 ans, vous suivez tous les sujets autour du numérique et particulièrement ce qui touche à la surveillance et aux libertés individuelles. Vous avez publié l'état d'urgence technologique, comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie, aux éditions Premier Parallèle. Avant il y avait eu la trace enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance. Alors, vous allez nous raconter, Olivier, les formes que prend concrètement cette surveillance de masse. Juste le temps de vous présenter, évidemment, mon équipe. Alors, avec eux, l'État n'a pas besoin d'intervenir, ni d'installer de caméras. Ils se fliquent entre eux. Chacun m'envoie des messages pour dénoncer l'autre. Manon, vendredi 22h18, vu Quentin ivre dans karaoké de Belleville, sans sa meuf, mais avec ta rhum. Quentin, samedi 3h02, réveillé par du bruit, j'ai cru que c'était un clodo qui se battait avec une poubelle. C'était Manon qui partait en after. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Alors Manon, déjà, on peut rassurer Anne Hidalgo, la poubelle va bien, vous aussi. Et quand vous n'êtes pas en after, vous êtes sur les réseaux sociaux que vous sillonnez pour nous chaque après-midi, à l'affût de la nouvelle tendance, de la nouvelle polémique. Aujourd'hui,
un nouvel influenceur très problématique, Mathieu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des masculinistes. Ah. Et bien là, je vais vous dresser le portrait de la relève d'Andrew Tate, de son disciple de 22 ans aux millions d'abonnés. Ça sera en fin d'émission dans ma veille sanitaire.
Une sorte de baby Yoda.
De Baby Tate, qui fait très très peur.
Face à vous, Olivier, vu le caractère dissolu de ses mœurs, il fait partie de ceux qui tentent en permanence de déjouer cette surveillance de masse. Mieux, il tente même de déjouer la surveillance de niche, celle que sa copine exerce sur lui. Ainsi, chaque fois qu'il donne rendez-vous à une cougar dans un love hotel de Pigalle, il prend soin de désactiver la fonction « me géolocaliser » sur son iPhone. Hélas, c'est sans compter sur le zèle de Manon, qui, passant elle-même 90% de son temps dans les bars de Pigalle, envoie à sa copine l'avertissement suivant « Attention girl, Quentin monte en chambre avec une luisouze, sororité, Quentin. Tu nous tiens. Heureusement, Quentin, il vous reste votre métier, vous vous raccrochez à ça chaque jour. Vous partez pour nous à la rencontre des passants et vous les faites réagir à notre thème. Alors, les gens se sentent-ils vraiment surveillés ?
Bah, moins que moi, déjà, visiblement. Oui, visiblement. Mais heureux de voir que ma prétendue vie nocturne alimente vos fantasmes les plus obscurs. Pourquoi pas ? Les gens se sentent surveillés, le portable, les caméras en ville, l'expérimentation de cette surveillance assistée par de l'intelligence artificielle pour les JO 2024, ça vous effraie, mais ça vous rassure aussi, il y a cette dualité, cette contradiction qu'on va entendre tout à l'heure dans le micro-trottoir.
Nous sommes pourtant tous surveillés dans des proportions qu'on peine à imaginer. Si vous voulez savoir à quel point vous êtes surveillé, ne manquez pas le Zoom Zoom test aux alentours de 16h30. Et puis, lui, je ne sais pas si sa copine le surveille, mais elle devrait, car disons que son intérêt pour les chroniques de Manon, qu'il juge toutes...
Super ta chronique, Manon, ouais, super.
Peut-être un peu intéressé. Pierre Thévenoud nous rejoindra en toute fin d'émission. Olivier Tesquet, quitte à nous rendre tous parano, est-ce que là, en ce moment... Tous autour de cette table, on est surveillés. On n'est quand même pas enregistrés.
Alors, on n'est peut-être pas enregistré en permanence, quoique, maintenant que je sais qu'ils se fliquent les uns les autres, je préfère rien. Mais non, à partir du moment où on a tous un téléphone dans la poche et qu'on navigue sur un ordinateur, oui, de fait, on est déjà, on laisse tout un tas de traces derrière nous, traces qui sont exploitées par des grandes plateformes et par tout un tas d'acteurs plus ou moins clandestins autour, en dessous, au-dessus, à côté de ces grandes plateformes, qui savent parfois bien plus de choses sur nous qu'on ne sait sur eux.
Face à vous, Olivier, il aurait pu, il aurait dû monter très haut dans l'organigramme du FBI. Hélas, il s'est heurté à ce plafond de verre aussi infranchissable qu'injuste, la connaissance de la langue anglaise.
Ça a été
the limit. Hein,
voilà. The limit.
Alors, il a bifurqué vers le journalisme. Bonjour, agent Lacarrière.
Bonjour, mon petit Mathieu.
Chaque jour, Cyril, votre mission, et vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter, non, nous raconter les origines de notre expression. Alors, la surveillance de masse, d'où ça sort ?
Eh bien, je ne vais pas vous refaire un laïus sur 1984. Big Brother surveille tout le monde, vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, vous faites un saut à la bibliothèque de votre quartier, vous empruntez 1984 et hop, vous comprendrez tout. Ça vaut presque un d'où ça sort.
Presque. Modestement.
Olivier Tesquet, vous aurez sûrement d'autres personnages à nous citer durant cette émission. Mais aux États-Unis, la surveillance de masse, c'est une affaire de Bush et même de George Bush. H et W. Début des années 90, c'est George Bush père qui est à la Maison-Blanche et lui, il ne lutte pas encore contre le terrorisme, mais contre les cartels de drogue. La NSA n'existe pas encore, mais la DEA, oui. La DEA, c'est le département de lutte contre la drogue. En 1992, la justice américaine ordonne à tous les opérateurs téléphoniques de fournir à la DEA la liste de tous les appels depuis les États-Unis vers des pays qui seraient susceptibles de participer à du trafic de drogue. Ce programme s'appelle le USTO, US to Other Countries. C'est le premier programme de surveillance de masse américain. En tout, 116 pays ont été concernés par ce qu'on doit aussi pouvoir qualifier d'espionnage. Olivier Tesquet, vous nous direz s'il y a une différence entre surveillance et espionnage, sûrement pas. USTO est resté en activité très longtemps, en fait jusqu'en 2013, et c'est grâce aux révélations d'Edward Snowden que les États-Unis y ont mis fin, au moins officiellement.
Et Cyril, l'autre Bush alors ?
W, le fils de H. En 2001, il va se servir des attentats du 11 septembre pour mettre en place un système de surveillance encore plus sophistiqué que celui de son papa. Création du Patriot Act, extension des prérogatives de la NSA, agence de sécurité intérieure américaine. Tout ça sera dénoncé à de multiples reprises, parfois même jusqu'à ici en France. Et puis, il y a eu les attentats de 2015 et des élus français ont commencé à réclamer la même chose pour nous protéger, bien sûr, pour nous protéger. Vraiment, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Olivier Tesquet, Cyril vient de nous parler des prémices de la surveillance de masse aux États-Unis. On s'en doute, ça n'existe pas que là-bas. Quels autres pays ont été précurseurs en la matière ?
Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est quand on parle des États-Unis, et quand on parle des États-Unis dans ce contexte du début des années 90, on parle d'eux et de leurs alliés. C'est-à-dire que historiquement, la surveillance menée par les États-Unis est une surveillance partagée, on va dire, avec les autres pays qui sont du monde anglo-saxon, ce qu'on appelle les Five Eyes dans le jargon, donc c'est les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, qui ont formé ce qu'on appelait, au moment où ça a été révélé à peu près à la même époque, d'ailleurs fin des années 80, le réseau Echelon, qui était la première fois où on avait comme ça la vision un peu panoramique de cette surveillance globale. Faut s'imaginer vraiment les paraboles, enfin les antennes dans les champs, capables d'intercepter les télécommunications. Donc on va dire les démocraties libérales étaient assez en pointe sur le sujet, et puis Cyril le mentionnait, en France, on a pris le pli assez vite, parce qu'en France, ça n'aura échappé à personne que le discours selon lequel la sécurité est la première des libertés est un discours assez ancien. Ça fait bien 30, 35, 40 ans qu'on le répète. D'ailleurs, que les présidents ou les élus soient de droite, de gauche, ça change pas grand-chose. Et donc, à force de répéter ça et de le répéter encore et encore, évidemment, ça fait le lit de tout un tas de politiques publiques qui nécessite de mettre en place des outils de surveillance qui sont à chaque fois plus perfectionnés.
Mais alors depuis 2015 et les attentats, alors maintenant c'est open bar. On est quasiment d'accord avec tout ce que nous propose le gouvernement en matière de surveillance.
Il y a eu une accélération, c'est-à-dire que il y avait tout un tas de textes sécuritaires avant les attentats. On empilait quand même déjà de manière vertigineuse les lois sécuritaires depuis 1986 à peu près, s'il fallait trouver un point de départ. Le moment où on invente la justice antiterroriste en France, c'est un peu ça, vraiment l'acte de naissance. Et à partir de 2015, donc évidemment on est dans la guerre contre le terrorisme, qui est formulée comme telle, hein, c'est la guerre contre le terrorisme, c'est les mots de Manuel Valls, c'est les mots de François Hollande. Et à ce moment-là, on voit arriver les mêmes textes sécuritaires, mais à une vitesse encore plus importante et avec une dimension technologique dans à peu près chaque texte. On a une loi renseignement en 2015, on a d'autres textes qui suivent, on a la loi sécurité globale dont on a beaucoup parlé il y a à peu près 2 ans, là maintenant on a la loi sur les Jeux Olympiques, et quand un élément technologique, un outil n'arrive pas à passer dans une loi pour une raison X ou Y, on trouve un moyen de le recycler d'une autre façon. C'est comme ça que les drones de la loi sécurité globale, on les a fait passer par un autre moyen.
On va revenir sur les dispositifs en vue des Jeux Olympiques de 2024. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que la France n'est pas en retard en matière de surveillance.
Non,
pas du tout. Alors Olivier, c'est bien sûr à la police que profitent d'abord ces nouveaux moyens de surveillance. C'est d'ailleurs grâce à ces nouvelles technologies que la BAC du 20e a mis la main sur Quentin après son délit de fuite dans une Peugeot France Bleu. Un casier qui s'est encore alourdi puisque Quentin a également avoué le vol d'un Agra chez son ancien employeur hier.
Vous l'avez dit.
Depuis qu'il vit traqué par les Condés, Quentin fredonne The Clash. Police on my back sur Internet. Souriez, vous êtes fliqué. Zoom aujourd'hui sur la surveillance de masse avec vous, Olivier Desquet, journaliste spécialisé dans les questions de surveillance. Le jeudi 23 mars, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'une expérimentation de la surveillance assistée par intelligence artificielle en vue des JO de 2024 à Paris. Amnesty International estime que cette décision légalise pour la première fois le recours à la surveillance assistée par l'intelligence artificielle en France et dans l'Union européenne, que ça risque d'instaurer de manière permanente une surveillance d'État et de permettre des violations à grande échelle des droits humains. Est-ce que Amnesty International a raison, d'après vous, de, de s'alerter comme ça?
En tout cas, il y a une accoutumance. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en France, on connaissait la vidéosurveillance à la papa, un peu. C'est-à-dire la vidéosurveillance à la Patrick Balkany, qui a été l'un des pionniers en France, quand même, rappelons-le.
Patrick, si voilà, tu nous écoutes.
Levallois, première commune de France à être équipée en la matière. Et puis, on voit bien qu'il y a un changement d'échelle, mais qui n'est pas seulement un changement d'échelle. C'est-à-dire que maintenant, on se dit qu'on va mettre des traitements algorithmiques alors pour détecter les situations suspectes, gérer les mouvements de foule, en nous disant d'ailleurs que ce type de dispositif va permettre d'éviter les fiascos de type finale de la Ligue des Champions
l'année dernière. Ce qui n'est pas le cas, selon vous, ça ne peut pas aider ?
Alors, jusqu'à preuve du contraire, le fiasco du Stade de France l'année dernière, c'est quand même un gros souci de conception du maintien de l'ordre. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que la vidéosurveillance, aussi intelligente soit-elle, aide beaucoup. Surtout quand, comme ça a été le cas pour la finale de Ligue des Champions, les bandes de vidéosurveillance disparaissent mystérieusement.
Oui, non, évidemment, ça n'aide pas. Voilà. Et à ce stade-là, ce dont je parlais pour les JO, c'est présenté comme une expérimentation. Mais vous parlez, un truc intéressant dans le livre, l'effet de cliquer. C'est-à-dire qu'on revient pas en arrière une fois que l'expérimentation est lancée. En gros, le tester, c'est l'adopter.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, déjà, il faut remarquer que dans le texte, l'expérimentation ne prend pas fin exactement avec les Jeux. Elle est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2024. Il était même question qu'elle soit prolongée jusqu'au milieu de l'année 2025, pour se laisser le temps de voir comment ça fonctionne. Peut-être le tester sur d'autres événements sportifs, d'autres grands événements, etc. Mais on voit bien, et c'est le cas vraiment par une observation empirique sur tous les dispositifs qui ont pu être déployés, d'ailleurs dans les grands événements sportifs ou pour d'autres choses, quand on les expérimente, on s'habitue et c'est impossible de revenir en arrière. Je vais garder l'exemple des grands événements sportifs. Reconnaissance faciale à Moscou pour la Coupe du Monde de foot en 2018. Pareil, régime un peu de l'expérimentation. Oui. Équipement à marche forcée, parce qu'évidemment, tout ça se fait dans un laps de temps extrêmement réduit. La Coupe du Monde se termine, les équipements restent. Aujourd'hui, la reconnaissance faciale à Moscou, elle a servi à s'assurer que les gens respectaient le confinement pendant le Covid.
Mais pas que.
Et maintenant, évidemment, elle sert à identifier tous les individus qui sont susceptibles de participer à des manifestations. Par exemple.
Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent investi derrière. Ils n'ont pas envie de le perdre.
Alors, il y a beaucoup d'argent. C'est complètement intégré dans le langage qui est mobilisé par à la fois les industriels et les pouvoirs public sur les Jeux Olympiques, ils adorent une notion, c'est la notion d'héritage. Ils parlent d'héritage, genre l'héritage des infrastructures, etc. Mais l'héritage aussi de ce type de dispositif. Il y a un enjeu financier pour les industriels et l'enjeu stratégique pour la France d'avoir des industriels qui rayonnent, qui sont capables d'exporter, etc. etc. Et puis, on est aussi dans une situation où, puisqu'on est en guerre, un coup contre les terroristes islamistes, un coup contre le Covid, maintenant contre les dangereux éco-terroristes qui veulent construire des ZAD. On voit bien que dans ce.
Je vous sens un peu critique à l'égard des propos de Gérald Darmanin.
Non, à peine.
Attention.
Je voudrais pas avoir de problème.
Oh non.
Mais quand on est comme ça dans une succession de crises ininterrompues et qu'on est dans une rhétorique de l'ennemi permanente, on voit bien que ce type de dispositif peut toujours trouver une utilité.
Je me fais l'avocat du diable, le diable n'étant pas Gérald Darmanin, je le précise tout de suite, je ne veux pas avoir d'ennui non plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des avantages à la surveillance, aux algorithmes, quand on a les vidéos qu'on décrypte, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un effet d'autodiscipline quelque part? Quand on se sait surveiller, peut-être qu'on a moins tendance à déraper ou maîtriser. Est-ce qu'on a des études là-dessus?
Alors peut-être, mais encore faudrait-il pouvoir le démontrer. C'est-à-dire que l'un des grands problèmes de la vidéosurveillance, et maintenant on voit qu'on a ce changement d'échelle assez spectaculaire, c'est que... ça brille depuis des années par l'absence de bilan comptable. La Cour des comptes, qu'on peut difficilement suspecter d'être des gauchistes patentés, réclame depuis plus d'une dizaine d'années une évaluation sérieuse de la vidéosurveillance. Il y a eu une étude d'un chercheur assez récente qui montrait, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais qui montrait que dans les résolutions d'enquête, la vidéosurveillance avait été utile, mais dans un nombre ridicule, vraiment infinitésimal de cas. Et donc on voit qu'il y a une distorsion de plus en plus grande entre les discours sécuritaires qui sont invoqués pour déployer ce type de matériel.
Et l'utilité réelle.
Et l'utilité réelle que ces outils ont. Et en fait, bien souvent, c'est une espèce de martingale politique pour tout un tas d'élus qui vendent de la sécurité comme une promesse électorale. Et puis après, le reste, est-ce que ça marche ou pas, finalement?
Ça rassure peut-être les administrés, mais voilà. Dans votre livre « À la trace », donc qui était écrit avant état d'urgence technologique, vous disiez que le plus dangereux avec la surveillance de masse, c'est qu'elle brille par son invisibilité. C'est la surveillance qu'on ne voit pas qui est la plus pernicieuse?
Bah oui, parce que, alors pour deux raisons. La première, c'est que quand je parle de dispositifs de surveillance invisibles, il y a évidemment tous les dispositifs de surveillance du quotidien qu'on a, par exemple, dans nos téléphones, qui se présentent pas comme des dispositifs de surveillance. Quand vous faisiez la petite introduction en disant qu'ils se fliquent tous les deux, Instagram, c'est exactement cette promesse-là. C'est-à-dire que Instagram peut tout à fait être vu comme un dispositif de surveillance avec cette grille de lecture-là. Et ensuite, il y a d'autres dispositifs qui sont les dispositifs, par exemple, dans l'espace public dont on est en train de parler. Et eux, ils brillent par leur invisibilité parce que on les voit de moins en moins. Il y a des effets de miniaturisation. Mmh. Aujourd'hui, si je me balade dans la rue, je suis pas capable de savoir si la vidéosurveillance, elle est intelligente ou pas. Est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est capable d'identifier? À quel moment elle va décider que j'ai un comportement suspect? Avec quel moment elle va décider que là, c'est un attroupement alors que, en fait, c'est trois personnes qui discutent? Tout ça, c'est comme un miroir sans teint, en fait. On voit pas comment est prise la décision.
Olivier, face à vous, plus qu'un chroniqueur, plus qu'un journaliste, une machine. Le premier journaliste à faire du prémontage dans sa tête. Capacité étonnante qu'il nous révélait hier au détour d'une réunion dans laquelle il levait le voile sur ce don assez unique, relevant presque du syndrome Asperger. Quentin isole les sons dans sa tête avant même de les monter. C'est en tout cas ce qu'il a dit devant la DRH d'Inter, histoire de l'impressionner.
Ah oui.
C'est fort, c'est très fort. C'est Quentin, lui.
Alors,
racontez-nous, Quentin, les gens que vous avez croisés, est-ce qu'ils étaient conscients de vivre dans l'ère de la surveillance de masse?
C'est curieux parce que en allant faire ce sujet, je me suis senti observé dans la rue comme suivi. Alors que j'enregistrais.
Vos fans peut-être, hein, vos fans.
Alors que j'enregistrais des gens, cette femme vient vers moi et me demande mon nom.
Je vous ai entendu à France Bleu, puis maintenant je vous entends à France Inter.
Oh là là.
Ah ben oui. Non, j'écoute pas. J'ai entendu une fois par hasard, vous êtes avec Mathieu.
Mathieu Noël.
Oui, voilà, Mathieu Noël. Eh ben comme ça, j'aurais vu votre visage parce que je connais bien votre voix.
Et alors ça va, vous êtes pas trop déçu?
Bon, d'accord.
Fishing for compliments.
Passons.
Le mec, il veut vraiment des compliments.
Ouais,
il
bah, j'en ai pas eu. Là, voilà. Donc, moi et mon physique de radio, on remercie tout le monde. Je lui tends la pancarte avec la notion du jour dans Zoom Zoom Zen.
La surveillance de masse. Ben, Big Brother, Google qui nous suit partout. C'est flippant parce que ça, pour moi, c'est plutôt réel que de la fiction. Dès qu'on utilise les applications et tout ça avec notre téléphone maintenant, la localisation, faut pas se leurrer. Hein. On est suivi. Qui nous envoie des pubs. C'est pas grave, mais par contre, ça peut devenir grave.
J'arrête ces deux amis trentenaires qui marchent en discutant. Elle a un imper bleu pastel assorti à son bonnet. Lui, il est habillé tout en noir, la petite barbe, les lunettes rondes. La surveillance de masse, ça leur fait penser à quoi?
Moi, ça me fait penser à la Chine.
Ouais, sans pour autant aller à la Chine, t'as les JO 2024. Ils ont autorisé un dispositif de surveillance en amont, pendant et après. Donc, pas forcément à la Chine, peut-être même en France. Hein.
Si c'était par intelligence artificielle,
ouais,
vous avez...
Ouais, exactement. Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, ça m'inquiète. C'est-à-dire que tout est enregistré, tout est filmé dans des fichiers, stocké. Et là, pour l'instant, ça va, mais qui sera élu dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans? Est-ce que ces fichiers existeront toujours? Ça fait poser des questions.
En l'écoutant, son ami ajoute quelque chose qu'il a vu dans l'actu.
La technologie va plus vite que nous, de toute façon, donc il faut être à la hauteur de cette vitesse-là. Ça me fait penser à la sorte de pétition, là, la lettre d'Elon Musk récemment, qui a demandé un moratoire sur un arrêt sur le développement de l'intelligence artificielle. Si des gens comme lui, très avertis, très conscients de jusqu'où ça peut aller, c'est inquiétant.
En effet, Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux ont signé mercredi un appel à une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT-4, en évoquant des risques majeurs pour l'humanité. Bref, je vous en remonte, vous. Je sens que
non,
ça...
c'est juste que c'est, je trouve ça inquiétant, effectivement, voir les images des manifestations, des contrôles policiers, de la façon dont on ne t'invite pas à aller manifester, clairement. Au contraire, on se dit, en fait, j'ai peur d'aller manifester, alors que manifester, c'est quand même un droit très important et fondamental. Et aujourd'hui, les gens autour de moi ont dit, non, j'ai peur d'aller manifester parce que j'ai peur de la surveillance policière, j'ai peur de me faire embarquer. Et donc, effectivement, ce genre d'outils peut très rapidement... être utilisé à mauvais escient.
En parlant de manifestation, pour Pascal, cette surveillance assistée par l'IA, les drones, ça lui va?
Bah, je pense que c'est un peu utile quand même, parce que vu la bande de connards qui foutent la merde dans les manifestations aujourd'hui, si on pouvait les repérer un petit peu et puis les éliminer, ce serait pas mal. Okay. Enfin, les mettre de côté, hein, j'ai pas dit éliminer.
Ah, oui, voilà.
Moi, je pense que c'est utile dans un environnement où tout le monde se croit tout permis.
Farida et Christine sont deux amis à la retraite. Je leur raconte l'expérimentation pour les JO, l'intelligence artificielle qui va être capable de détecter un bagage isolé, une situation suspecte ou même un mouvement de foule. La lecture d'un thème du jour leur fait tout de suite penser à un drame qui s'est produit le 29 octobre 2022.
Je dirais que c'est pas mal parce que vu les débordements de foule qu'il y a eu, c'est je crois en Corée, au moment où il y a eu une fête, ils se sont tous engouffrés dans une petite rue et ils n'avaient pas anticipé. Il y a eu tellement de morts, de gens étouffés et tout ça. Moi, c'était des images vraiment qui ont été très choquantes. Ouais.
La bousculade d'Halloween suite à un mouvement de foule dans l'un des quartiers de Séoul en Corée du Sud qui a fait 156 morts et 133 blessés. On marche encore un peu et je tombe sur ces trois copains qui sont en train de manger un sandwich sur un banc. Bonjour.
Bonjour.
La surveillance de masse.
La surveillance de masse.
Moi, ça me rappelle déjà ce qui est mis en place en Chine, essentiellement, avec le score social. C'est la surveillance à une échelle assez large du comportement de chacun au sein de la société, qui est évaluée avec un nombre de points qu'on peut gagner ou perdre. Et on peut être complètement mis à l'écart de la société si jamais on se retrouve avec pas assez de points sur son crédit social. Quoi.
Malgré ce parallèle, ils ne voient pas d'un mauvais œil cette expérimentation pour les JO. Ils sont même plutôt pour.
Je trouve que c'est un moyen assez simple d'avoir un pré-mâchage de l'information par une intelligence artificielle et qui leur permet de se focaliser sur les points d'attention.
Il faut que ce soit bien encadré, mais c'est vrai que être contre parce que c'est nouveau, parce qu'on l'a jamais fait ou parce que c'est peut-être un peu dommage.
Il y a toujours un humain qui décide derrière dans la politique de sécurité qui va être mise en œuvre pour les Jeux Olympiques. Je me dis qu'un traitement de données qui peut être fait par une intelligence artificielle au premier ordre et ensuite c'est un humain qui prendra les décisions ou pas.
On est sûr que le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, prendra les...
T'as la page ?
Sous la direction de Michel Rocard, bien sûr.
Visiblement des gens de votre génération, Mathieu.
C'est ce qu'elle vous dit, ma génération, Patin.
Au final, cette surveillance de masse vous effraie, elle vous rassure aussi. Sentiment contradictoire, elle est bien là, au milieu de la nasse, la surveillance de masse.
Olivier Tesquet, en Zoom aujourd'hui avec vous sur cette surveillance de masse. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose de très simple. Elle commence où, la surveillance ? On parlait des téléphones tout à l'heure, mais une question que je me posais l'autre jour, j'ai pas la réponse, peut-être vous l'avez. Est-ce que notre téléphone nous enregistre ? Parce que l'autre jour, j'ai reçu des pubs qui ne correspondaient pas à des recherches, genre Google. J'ai pas tapé le mot dans Google, j'en ai juste parlé. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai des pubs de ça. Comment il peut savoir que...
Alors ça, c'est effectivement la question qui revient inlassablement de savoir est-ce que nos téléphones nous écoutent.
Oui.
Alors, il y a eu des études de chercheurs. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à démontrer de manière vraiment certaine que nos téléphones nous écoutaient. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a des applications, pas toujours bien intentionnées... qui accèdent à des informations auxquelles elles ne sont pas censées accéder et qui sont capables, du coup, de récupérer... on va dire suffisamment de marqueurs ou d'informations pour être ensuite en mesure de disséquer, voire prédire, anticiper nos comportements. Et parfois, on est troublé parce que les suggestions qui vont nous être faites se rapprochent tellement de ce qu'on aurait pu faire, on est devancé par la machine, et du coup, ça crée cette espèce de trouble cognitif où on a l'impression qu'effectivement, quelqu'un était dans la pièce en train d'écouter la conversation.
Manon. Les applications type les réseaux sociaux, vous parliez d'Instagram tout à l'heure, mais à quel point justement on est surveillé via nos réseaux, via les données en fait qu'on leur fournit ?
Ah bah ça, c'est certain. Alors, on est un peu plus protégé en France et en Europe qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est terrifiant en fait. Ce qu'il faut se dire, il n'y a pas de RGPD, règlement général sur la protection des données. Aux États-Unis, vous avez des courtiers en données qui sont des entreprises gigantesques mais qui n'ont pas du tout pignon sur rue et dont la fonction est vraiment d'acheter et de revendre des données. Et donc, ils ont des milliers d'informations sur chaque individu. Ils connaissent la marque de votre voiture, ils savent ce que vous mangez, ils savent à quelle fréquence vous le mangez. Ils connaissent absolument tout de votre vie. Ils sont capables de prédire vos comportements. Ils vendent cette capacité à tout un tas d'acteurs publicitaires ou autres. Et évidemment, ça a des conséquences. Il y a un exemple dont je parle dans un des livres sur une chercheuse qui était enceinte, qui fait une fausse couche. Et en fait, pendant des mois, elle continue à recevoir des pubs pour son bébé marketing, comme elle l'a appelé, parce que le courtier en données, à l'autre bout du fil, il a toutes les informations, sauf celle où elle a perdu l'enfant.
La jeune femme à l'imper bleu nous dit on ne sait pas si ces images seront stockées, ce qu'elles vont devenir, comment elles seront utilisées. Comment ça fonctionne concrètement là, l'expérimentation des JO 2024? Ils vont conserver des images quelque part sur un serveur?
Alors, sur l'expérimentation des jeux, elle est, encore une fois, bornée dans le temps. Il y a une promesse, c'est écrit noir sur blanc dans le texte, c'est pas possible de l'interconnecter avec d'autres fichiers de police. Il y a un grand fantasme policier d'interconnexion des fichiers, parce qu'on a énormément de fichiers de police en France, ça c'est une vraie... On a 350 sortes de fromages, mais on a aussi, on a peut-être même plus de fichiers de police...
C'est le pays des fichiers.
Que de fromages, voilà, tout à fait. Donc a priori, on est protégé contre ça, au moins pour l'instant, mais on sait que ça reviendra. C'est-à-dire que moi, je l'entends dans à peu près tous les débats autour des lois sécuritaires. Vous avez systématiquement des représentants de la force publique qui viennent dire « Ah ben oui, mais si quand même on pouvait interconnecter
ça serait mieux.
La reconnaissance faciale au fichier des personnes recherchées, à ci, à ça, etc. Ça nous offrirait davantage de possibilités. »
Oui, mais peut-être que ça permettrait aussi d'arrêter les criminels. On aurait retrouvé le Nagra de Quentin, peut-être, si on avait
là,
ces fichiers.
Il est là.
Bien sûr, il est là. On continue à parler surveillance de masse dans Zoom Zoom Zen avec notre
notre invité Olivier Tesquet, dont je rappelle le livre « État d'urgence technologique ». Et je me permets de citer un autre livre que vous avez lu, vous le citez d'ailleurs aussi, c'est le livre de Shoshana Zuboff, si je ne me trompe pas, « Le capitalisme de surveillance ». C'est vraiment un des livres qui permet de comprendre notre époque, avec le vôtre évidemment. Le quiz nous permettra de plonger plus loin encore dans les profondeurs de la surveillance de masse. Aujourd'hui, toutes nos données sont siphonnées. Par exemple, j'aurais beau dire que le titre que j'écoute en boucle en ce moment, c'est « Interpol » de Loose and the Yakuza. Non, mon Deezer sait, lui, que c'est faux et que c'est Céline Dion que j'écoute en boucle. Mais bon, promis, j'écoute aussi beaucoup Loose and the Yakuza.
Mes sentiments sont des instruments de torture quand mon ami me ment, de suspicion en allusion. Ces illusions ont brûlé devant. Et maintenant que les gens changent, je change de nom pour devenir un homme. Je suis plus personne, je suis en exode. Ce qui m'impressionne, c'est que plus personne ne me téléphone pour mes anecdotes, comme si je suis recherché par Interpol. Par Interpol, comme une idole, les temps passés, baby doll. Je tourne mal, je tourne mal, je tiens en bas, une yakuza, tu me perdras, d'être brutal. Je tiens en bas, je tiens en bas. Mes sentiments sont des instruments de torture quand mon ami me ment, de suspicion en allusion. Ces illusions ont brûlé devant. Je changer de nom pour devenir un homme. Je suis plus personne, je suis en exode. Ce qui m'impressionne, c'est que plus personne ne voit ma gueule. Je me sens si seule, tout le temps en deuil. La vie m'écoeure, chemin de rancœur. Et j'ai mal au cœur, cherche mon âme sœur. Et j'ai mal au cœur, antidépresseur. Me fait de chaleur, cette nuit de douceur. J'ai besoin d'un jardin, pourquoi me faire croire. Je passe à la hauteur, je passe à la hauteur, je passe à la hauteur. Mes sentiments sont des instruments de torture quand mon ami me ment, de suspicion en allusion. Ces illusions ont brûlé devant. Et maintenant que les gens changent, je change de nom pour devenir un homme. Je suis plus personne, je suis en exode. Ce qui m'impressionne, c'est que plus personne ne veut voir ma gueule.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Être scruté chaque jour de manière impitoyable, sans aucune contrepartie positive, simplement pour la satisfaction perverse du détraqué qui jouit de mettre ainsi à jour vos failles. Notre invité appelle ça la surveillance de masse. Moi, j'appelle ça le zoom zoom test.
Chaque la jour, lucidité.
Chaque jour, un quiz autour de notre thème et aujourd'hui, un enjeu qui va vous motiver. Oula. Puisque le vainqueur remportera un iPad Pro 2 gravé à son nom. Enfin, il faudra juste voir ça avec Nagui, je suis sûr qu'il sera OK. Attention, top! Si vous avez un minimum de culture en matière de série, vous reconnaissez c'est évidemment le thème de la série culte des années 2010, évoquant un avenir proche où la surveillance de masse pourrait devenir encore plus massive.
Black Mirror.
Black Mirror.
Bonne réponse de Manon. Bien sûr, il ne s'agissait pas là, non.
Allez,
c'est un point.
Non, il ne s'agissait pas là d'une première question, ça aurait été une insulte à votre intelligence. C'est juste la thématique du quiz. Je vous livre des méthodes de surveillance, à vous de me dire Black Mirror, la réalité ou les deux. Oh, attention, top.
Allez. Ah ouais.
Question d'échauffement, j'ai envie de rapidité car elle a déjà été posée dans un précédent quiz. Imaginez un monde. Imaginez un monde.
On n'a pas le temps, son nom.
Imaginez un monde où Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, arriverait au comptoir d'Air France, fil business évidemment, et où l'hôtesse lui indiquerait que suite aux insultes qu'il a proférées à l'encontre d'un restaurateur qui avait raté la cuisson de son onglet il y a quelques semaines, en l'occurrence crève pourriture vegan, son billet a été annulé, fini les Seychelles. Ce monde existe-t-il dans Black Mirror, dans la réalité, ou les deux?
Ah, que Black Mirror.
Les deux.
Il peut pas y avoir le restaurateur qui nous poursuit comme ça. C'est pas possible, enfin.
Les deux, mais moussaillons. Eh oui, ce scénario du pire où chacune de nos actions affecte notre crédit social, notre note finalement, note qui peut monter ou baisser, existe. Dans Black Mirror, bien sûr, c'est le premier épisode de la saison 3 intitulé Chute libre. Et ça existe en vrai depuis 2020 en Chine, on en a parlé. On en a parlé, c'est le sympathique et convivial SCS, Social Credit System.
SCH.
Là-bas. SCH, non, ça c'est autre chose. Ouais, mais c'était une bonne blague pour nos amis qui aiment le rap. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes plus sur Move.
C'est vrai,
Manon, vous êtes désormais sur France Inter. Là-bas, donc en Chine, si Cyril avait levé la voix contre un restaurateur. Son social credit system aurait chuté d'un coup et il aurait dû renoncer à son séjour aux Seychelles, voire peut-être pire, y aller, mais en classe éco.
Mais en Chine, pas dans la file d'attente d'Air France, vous avez dit Air France.
Et ben, vous savez que vous pouvez être en Chine avec Air France. Va en Chine.
Non, mais d'accord.
Vous sortez un peu de chez vous.
C'était Roissy cette histoire.
Le monde ne se lit pas à Ranelagh. Au métro Ranelagh, vous faites tous vos micro-trottoirs. Je ne voudrais pas choquer vos chastes oreilles, mais un premier ministre britannique a eu un rapport sexuel avec un cochon. Black Mirror, la réalité ou les deux?
Black Mirror. Faut dire Black Mirror. Hein.
Moi j'ai dit A, la réponse A, puisqu'il a dit A.
Mais vous avez tous les deux la mauvaise réponse, donc ça ne va pas. La bonne réponse était en fait les deux.
En tout cas,
d'après mes sources, je peux vous dire que j'ai coupé et recoupé l'info. Le travail d'investigation pour ce quiz n'a jamais été bâclé, vous le savez.
5 minutes.
La scène où Hugh Grant se dandine sur ce tube disco dans Love Actually est loin. Serait loin d'être le truc le plus dingue qu'un premier ministre britannique a fait, je m'explique. Alors déjà oui, dans Black Mirror saison 1, épisode 1, le premier ministre est contraint, suite à un chantage, de copuler avec un cochon. Cyril n'avait d'ailleurs pas compris pourquoi il avait eu besoin d'un chantage. Mais là où c'est incroyable, c'est que selon une biographie non autorisée, tu m'étonnes, David Cameron, souvenez David Cameron, l'ancien Prime Minister britannique, aurait, je cite, « mis un jour ses parties intimes dans la gueule d'un cochon mort ». Un odieux ragot pour l'entourage de Cameron, le secret d'une soirée réussie pour Cyril Lacarrière. Attention, top! Nous voici à présent dans une mégalopole ultra-moderne. Content, c'est tellement moderne. La ville est tellement moderne que j'en perds ma voix. Contemplée d'une dizaine de millions d'habitants et 2 500 000 caméras, toutes équipées de reconnaissance faciale. Dès que quelqu'un commet une infraction, son visage s'affiche sur des écrans géants en mode wanted. Black Mirror, la réalité ou les deux?
Les deux.
La réalité, rien que la réalité. Vous avez encore une mauvaise réponse, c'est pas dans Black Mirror. Bienvenue à Chongqing en Chine, où grâce à la reconnaissance faciale, vous vous voyez en grand, comme si vous étiez un criminel du Far West avec une affiche wanted. Vous recevez même vos amendes directement sur le smartphone. Si à ce stade du quiz, vous n'êtes pas déjà sur le site du consulat de Chine pour voir comment vous procurer rapidement un visa, je vous propose d'écouter cette dernière question. Mais nous entraîne-t-elle en Chine ou pas? Il faudrait être futé. En tout cas, imaginez un monde où après cette fêtèche du vol Paris-Mahé, c'est aux Seychelles, parce qu'il avait insulté le restaurateur et que son crédit social avait drastiquement fondu.
Paris-Mahé,
c'était
à Paris.
Cyril apprenait en rentrant à la maison que sa femme le quittait. Pourquoi? Je suis quand même le présentateur du Douce Assort, éructé Cyril. À bout. Parce que je sais comment tu regardes tes lacarzous en scred, lui répondait son épouse en bouclant sa valise. Comment peut-elle savoir comment Cyril regardait ses lacarzous en scred? Eh bien parce qu'elle a accès aux lentilles connectées de Cyril qui enregistrent tout ce qu'elle voit et donc l'angle sous lequel il regarde. Black Mirror, la réalité ou les deux?
Black Mirror.
Les deux.
Pas les deux.
La réponse est effrayante, surtout pour Cyril. Bientôt les deux.
Oh, voilà.
Dans Black Mirror, bien sûr, ça existe, mais figurez-vous que grâce à Google, des chercheurs ont déposé un brevet de lentilles qui se posent de façon permanente et qui, en plus de corriger d'éventuels problèmes de vue, peuvent enregistrer tout de suite la réaction de la femme de Cyril. Oh la vache. Vraiment, tous nos vœux de bonheur d'ici là. Victoire de Manon pour l'iPad Pro, Nagui, c'est le bureau 6B58. Vous verrez directement avec lui. Olivier Tesquet est toujours avec nous pour évoquer les nouvelles frontières de la surveillance de masse. Et justement, dans ce quiz, une question manquée, parce que ça paraît, tout paraît hallucinant. Il y a quelque chose dans votre livre d'encore plus hallucinant. Est-ce que ça se passe aussi en Chine? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'opération Sharp Eyes? Très intéressante cette opération qui a été menée.
Mais alors, Sharp Eyes, qui est en fait une brique dans un dispositif, c'est-à-dire que en Chine, vous avez le crédit social. Et simultanément, et vraiment, faut se dire que c'est
synchronisé.
Ces éléments sont assez synchronisés. C'est l'idée que vous allez pouvoir amener la reconnaissance faciale absolument partout, en fait. C'est-à-dire que, alors, faut quand même pondérer ça. Juste, je digresse un tout petit peu. Le crédit social n'est pas un truc uniforme en Chine. C'est-à-dire, en fonction des régions,
voilà,
en fonction des provinces, il n'est pas organisé de la même façon. Mais l'idée, c'est de déployer la reconnaissance faciale jusque dans les villages et en mobilisant finalement ce qui est là depuis la révolution culturelle en Chine, c'est-à-dire en mobilisant jusqu'à l'intérieur des quartiers, à l'intérieur des maisons, et en faisant de chacun finalement un auxiliaire de police pour surveiller.
En encourageant la délation.
Et en encourageant la délation, évidemment.
Et un truc fou avec ce système, j'ai lu, c'est sur votre décodeur chez vous, vous pouvez voir les photos des gens qui enfin, j'ai pas très bien compris, mais expliquez-le.
Oui, dans
c'était très clair ce que j'ai dit, Manon. J'ai dit, Manon, vous n'avez pas besoin de répondre parce que je l'ai expliqué de manière tellement précise que je crois que nos auditeurs ont compris.
Dans une région en Chine, effectivement, il y avait cette possibilité, mais parce que c'est la même logique que l'écran géant qui affiche la personne qui traverse pas au passage piéton.
C'est humilié, pointé du doigt.
C'est vraiment ce phénomène de stigmatisation pour pousser à un comportement social acceptable.
Ils peuvent faire quoi du coup, parce que on n'a pas compris.
Alors du coup, vous pouvez regarder chez vous comme vous regarderiez, je sais pas, un match de foot ou Cyril Hanouna. Vous pouvez regarder les gens épinglés en train de ne pas être en phase avec ce qu'ils sont censés faire.
C'est incroyable. Et le slogan propagandiste qui va avec, télécommande à la main, sécurité dans le cœur. C'est comme ça qu'ils l'ont formulé. Mais ne riez pas, ça arrivera peut-être un jour chez nous. Attention. Il y a cette fameuse devise qui veut que celui qui n'a rien à reprocher n'a rien à cacher. Hein. On entend souvent, parfois, on l'intériorise soi-même, on se dit, finalement, j'ai rien à cacher. C'est plus compliqué que ça, quand même. Notre liberté, elle est quand même en jeu, même si on n'a rien à cacher.
Oui, alors moi, je me bats quasi quotidiennement contre cette idée qu'on n'a rien à cacher. Déjà parce que c'est pas forcément parce que quelque chose est légal que ça doit être su. Hein. On a tous notre jardin secret et c'est très bien comme ça. Voilà. Et aussi souvent, je pense que le fait de dire ça montre finalement ou signe le fait qu'on n'est pas directement concerné ou directement affecté par ces dispositifs. C'était, alors, sans critiquer les personnes qui s'expriment dans le micro-trottoir, qui par ailleurs sont quand même, je trouve, assez éveillées par rapport à ces problématiques. Mais tout le monde parle de ça comme si, finalement, ça allait concerner quelqu'un qui n'est pas soi, qui est quelqu'un d'autre. Moi, il se trouve que je parle un peu avec deux casquettes, c'est que j'habite à Saint-Denis, qui va être aux premières loges pour les JO 2024, et on a quand même, collectivement, un peu l'impression qu'on est le laboratoire d'expérimentation de ces joyeux dispositifs, et que la population de Saint-Denis, qui n'aura échappé à personne, est quand même dans de très fortes proportions d'origine immigrée, population qui, de toute façon, déjà, depuis de longues années, sont les cobayes un peu de tout un tas de dispositifs de surveillance, et on va pouvoir tester sur eux ce type de matériel. Je pense que si on allait leur poser la question à eux, en leur expliquant de quoi ils retournent, peut-être qu'on n'aurait pas exactement la même réponse.
Oui, vous êtes presque choqué par le degré d'acceptation de la population générale de tous ces systèmes de sécurité.
Oui, mais c'est aussi parce qu'on est des coupables consentants, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on utilise quotidiennement le téléphone, et on a des responsables politiques qui passent leur temps à nous expliquer qu'on accepte d'être fliqué par les applications, par les grandes plateformes sur nos téléphones.
Pour la bonne cause.
Et que pourquoi on serait plus méfiant vis-à-vis de l'État que vis-à-vis de ces grandes plateformes.
C'est pas une question de génération, parce que les quadras, les quinquas que j'ai rencontrés, ils sont peut-être plus soucieux de préserver leurs données personnelles que la Gen Z qui arrive quand même.
Alors, il y a un peu un phénomène générationnel. Moi, je suis souvent invité à parler de ces sujets-là par de vénérables ONG de défense des droits humains, Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, etc., peuplé de gens adorables, passionnants, très concernés, etc. Mais on va être honnête, la moyenne d'âge est assez élevée. On s'adresse à ses parents, voire ses grands-parents. Il y a cette crainte selon laquelle les jeunes seraient moins concernés. Je ne suis pas complètement convaincu. Alors, on n'a pas de travaux sociologiques suffisamment poussés, à ma connaissance en tout cas, pour pouvoir l'affirmer. Mais j'observe quand même qu'un certain nombre de jeunes de cette génération sont aussi dans un rejet assez systématique des réseaux sociaux, et que les modes de mobilisation des jeunes générations aujourd'hui, je vois par exemple tous les jeunes engagés pour la justice climatique, etc., quand ils voient comment les mouvements pour la justice climatique se font accueillir par les autorités et les forces de l'ordre dans le monde entier, à commencer par chez nous, peut-être qu'à un moment, ça peut aussi remettre en question l'utilisation qu'on a quotidienne d'un certain nombre d'outils.
Il peut y avoir une prise de conscience, Manon.
Mais c'est chez ces mêmes jeunes aussi qu'on voit des systèmes de géolocalisation que leurs propres parents installent aussi sur leur téléphone. La surveillance, en fait, elle commence par là aussi.
La surveillance, elle commence... En fait, on vit tous dans un... Plus que l'image de Big Brother, où Big Brother, on a l'impression que c'est l'œil omniscient qui voit tout. On est plus dans le régime du panoptique, où on se regarde les uns les autres. C'est-à-dire qu'on sait,
se surveille tous.
Voilà, on sait qu'il y a la possibilité qu'un œil nous regarde à un instant T et que ça nous discipline et qu'on s'épie, on s'observe comme ça un peu mutuellement, et ça maintient comme ça tout le monde autour de ce qui est considéré comme une norme.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, s'il était chinois, son crédit social serait proche de zéro après ses multiples manquements professionnels relatifs à l'obligation faite aux humoristes de prévoir une chute à leur chronique. Heureusement, il n'est pas chinois, il est poitevin, c'est ce qu'il sauve. Pierre Thévenoud s'apprête à nous rejoindre. Mais d'abord, avec vous, Manon Mariani, on plonge corps et bien dans un des univers où la surveillance est la plus totale et aussi la plus consentie, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un jeune streamer qui file un très mauvais coton.
Adine Ross, 22 ans, jeune influenceur américain, 5 millions de followers sur Instagram, 6 millions sur TikTok, 3 millions sur YouTube. Alors physiquement, il ressemble à l'archétype du beau gosse de la Gen Z, petit brun à barbe, bonnet stylé sur la tête, sneakers et sourire ultra bright. Il s'est fait connaître sur Twitch où il joue à des jeux vidéo comme GTA ou NBA 2K et il compte plus de 7 millions de followers sur la plateforme. Mais ça, c'était avant. Car depuis décembre, Adine s'est métamorphosé sur ses réseaux. Il s'affiche maintenant avec un crâne rasé, des lunettes de soleil, un collier de barbe et le plus souvent, torse nu. Un look qui n'a rien d'anodin car il est totalement similaire à celui d'Andrew Tate, le masculiniste notoire aux millions d'abonnés. Et vous vous en doutez, si Adine a copié l'apparence d'Andrew, ce n'est pas pour rien. Car le jeune homme de 22 ans est devenu le fan numéro 1 de Tate. Écoutez sa réaction ce week-end quand il a vu Andrew et son frère sortir de prison.
Andrew and Tristan Tate finally getting free. I miss that bald prick.
Enfin libre, il m'a manqué. Alors pour rappel, Andrew Tate et son frère étaient en prison depuis fin décembre en Roumanie. Ils sont accusés de trafic sexuel et ils viennent d'être assignés à résidence.
Mais je comprends pas très bien, maintenant c'est quoi l'histoire entre Andrew Tate et ce Adine Ross?
Alors ça remonte à juillet dernier. Adine Ross invite Andrew Tate à participer à l'un de ses lives sur Twitch. Live qu'il reposte ensuite sur YouTube. Résultat, un carton, 7 millions de vues. Du coup, Adine en refait d'autres et Andrew Tate revient régulièrement sur ses chaînes. Il fait même une apparition sur son TikTok dans une vidéo vue quasiment 30 millions de fois. Et dans ses vidéos, Tate parle évidemment de ses idées masculinistes et misogynes à Adine, de la façon dont il faut traiter les femmes pour avoir le pouvoir et à quel point ils sont des hommes forts qui n'ont besoin de personne. On dirait vraiment un gourou qui s'adresse à son disciple, une influence que Adine reconnaît lui-même.
Il m'a mis des trucs dans la tête. Il m'a fait croire que je pouvais devenir la meilleure version de moi-même.
Des idées qui ont donc fait leur petit bout de chemin dans la tête du jeune streamer, et ça ne se voit pas que physiquement, mais aussi et surtout dans ses contenus. Le petit prince des jeux vidéo s'est transformé en véritable icône pour les jeunes masculinistes américains.
En gros, il a pris la place d'Andrew Tate, quoi.
C'est ça, Andrew Tate s'est fait bannir de tous ses réseaux, donc il a eu la bonne idée d'aller exposer ses idées sur les chaînes de Adine. Sauf que les plateformes commencent aussi à s'intéresser à ce fameux Adine Ross. Il s'est notamment fait bannir de Twitch pour n'avoir pas assez modéré son chat rempli de propos antisémites et racistes. Je précise quand même que c'est une suspension permanente et qu'il avait déjà été banni de façon ponctuelle 8 fois auparavant, notamment pour propos homophobes. Il s'est donc trouvé un nouveau terrain de jeu, la plateforme Kick.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors Kick, c'est une sorte de nouveau Twitch lancé en janvier qui compte déjà 1 million d'utilisateurs et c'est une plateforme très peu modérée, du coup parfaite pour des profils comme celui d'Adine Ross. Le magazine Rolling Stone a analysé des lives du jeune homme et ça ne fait pas rêver. Il y tient des propos très radicaux où il parle de censure, de cancel culture ou de genre. Il a même été jusqu'à diffuser un film pornographique à ses followers alors que la plupart sont mineurs et il a aussi invité un néo-nazi notoire sur sa chaîne. Bref, vous avez donc compris la mentalité du personnage. Sauf que Adine Ross peut encore exprimer ses idées masculinistes à plus de 15 millions de personnes si on cumule tous ses abonnés sur tous ses réseaux. Sur TikTok, on trouve des montages où il traite des femmes de salopes et sur YouTube, on peut voir ses échanges avec le suprémaciste influent Nick Fuentes. Ça pose donc encore une fois des questions sur la modération des plateformes. Je rappelle tout de même qu'Andrew Tate a pu s'exprimer pendant des années librement à ses millions de followers sur les réseaux avant d'en être banni.
Eh bien merci Manon pour ces nouvelles rassurantes sur le front des réseaux sociaux, presque aussi rassurantes que ce texto de Pierre Thévenoud à 14h30 tout à l'heure. Putain, j'avais oublié de faire CTRL-S, j'ai perdu tout mon texte, mais vous inquiétez pas, je recommence. Pierre Thévenoud donc à suivre juste après Tina Riwen, Ténère Eden sur Inter.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Alors, on n'est pas tous égaux devant les nouvelles technologies à l'heure où les Chinois peuvent surveiller ce qui se passe dans le Colorado. Les Poitevins, eux, peinent encore visiblement à enregistrer un simple document Word. C'est le micro-drame qui a endeuillé l'après-midi de Pierre Thévenoud. Mais qu'on se rassure, il a réécrit toute sa chronique, normalement. Bonjour Pierre.
Bonjour. Bon, c'est parti pour le comique. J'ai décidé, en théorie, de commencer à bien bosser mes chroniques. Ah, parce que je ne savais pas, mais et les audiences sont bonnes. Hein. Attention, Mathieu.
000, c'est bien, Pierre.
Mais oui, attention. Non, c'est un coup à faire sauter Nagui à la rentrée, ça. Hein, le buzz arrive. Quand je fais le spectacle, je vois qu'il commence à y avoir du public France Inter. Facile à repérer. Il y en avait deux samedi, petit couple, tête de prof d'anglais, les yeux qui pleurent encore la lacrymo de la manif. C'est sûr, ils écoutent l'émission. Quoi. Merci d'être venu et de dépenser intelligemment votre argent pour aller voir un spectacle de qualité à un prix défiant toute concurrence. Alors aujourd'hui, on parle surveillance de masse, on nous espionne et tout machin. Pas besoin de caméra de surveillance, moi je peux bosser pour la DGSE, j'ai Instagram et TikTok, je peux surveiller tout le monde depuis mon clic-clac, les infos sur nos vies, on les balance nous-mêmes sur Instagram. Allez, un petit peu de haine, si ça vous dérange pas. Tout cela autour de la table, là. Et encore peu de temps. Les influenceurs, c'est des cons. Et maintenant, là, ça TikTok à gogo. Et vous me dégoûtez. Le plus dur à voir, c'est Cyril.
Ah non.
Moi, je suis pas très bon en réseaux sociaux, mais alors Cyril, syndrome Peter Pan. Le mec a 2000 ans, mais il veut être dans le coup. Il a Instagram, mais il sait pas faire. Donc, il fait que repartager les stories de Mathieu. Qui lui-même sait pas faire. Donc repartage les stories de Quentin. Visuellement, ça fait un gros tas de stories dégueulasses. Ça ressemble à rien. Attention, on va confisquer les téléphones là. Le top, c'est quand même Manon, très active sur Instagram. Pour préparer ma chronique, j'ai regardé toutes tes stories.
Ah oui, tiens.
Bon, faut qu'on parle.
Toutes les stories. Oui.
J'estime ta consommation à 14 de bouteilles de rosé semaine.
Ça va. On est pas
en avril. Sachant qu'on est que mardi. Voilà. Ça me paraît assez conséquent. Et attention, là, on n'est même pas vraiment dans le showbiz, on est en Ligue 2. Donc, si l'an prochain, ça monte en Ligue 1, nouvelle de Pardieu. En préparant la chronique, je me suis rendu compte que je faisais partie de la catégorie champion du monde, qui croit qu'il est plus fort que la CIA, parce que moi, on peut pas m'espionner. Parce que j'ai mis un autocollant sur ma webcam. T'es fier en plus quand tu le mets. Tu mets des gommettes partout, tu crois que t'es James Bond. Quoi. J'ai un pote un peu gilet jaune, il fait toutes les manifs. Et il me dit, je suis sûr que les flics ils m'espionnent, parce que dès que j'arrive vers une manif, je me fais contrôler. Je lui ai dit non. Non, s'ils te contrôlent, c'est parce que t'as un rat sur l'épaule et un diabolo. Tu sens la ZAD à 10 km, c'est normal que tu t'arrêtes. Je crois que j'ai trouvé une solution pour contenir les violences dans les manifestations. Rien que ça. Tu vas vite comprendre qu'il faut surtout jamais me donner quelque responsabilité politique que ce soit. Alors, c'est pas scandaleux de dire qu'il y a des flics qui aiment bien la bagarre. Moi, j'aime bien la pétanque. Chacun ses hobbies. Voilà. Et il y a des manifestants. Ils aiment bien aussi un peu la paston. Donc, ce qu'on fait, c'est que les manifestants qui sont chauds, ils se mettent un brassard bagarre friendly. Du coup, ils ont le droit d'avoir une matraque aussi. Tout le monde au même niveau. Et tu fais des espaces dédiés. Comme ça, ceux qui veulent se taper, ils y vont et ils laissent les autres tranquilles. Partout, il y a des coins fumeurs. Dans les manifs, tu fais des coins baston. Tu fais ça à bonne ambiance. Oui. À la fin, comme après un bon match de rugby, flics et manifestants se retrouvent pour boire des bières, puis ils débriefent le truc. Et bien vu Bernard, quand tu m'as traîné au sol en m'attrapant par les dreadlocks, joli coup, j'aurais dû les couper. Oui, t'aurais dû les couper, oui, depuis un moment. J'ai terminé, c'est fini les blagues, à bientôt en spectacle Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, la tournée continue.
Merci Pierre, et j'espère que Gérald Darmanin vous écoutait, il y avait pas mal d'idées à choper dans votre chronique, des bonnes idées. Oui. Encore cet après-midi sur France Inter. Merci Olivier Tesquet de nous avoir raconté la surveillance généralisée, la surveillance de masse, rappelle votre livre État d'urgence technologique. Merci Olivier, merci à tous, Quentin lui, Manon Mariani, agent La Carrière, c'est bon, vous pouvez retirer le microfilm. Étienne Bertin était à la réalisation, Gilles Gaillard à la technique. Demain, plus qu'une émission, un rendez-vous absolument immanquable, non seulement parce qu'on va répondre à cette question que je sais vous vous posez depuis longtemps, c'est quoi la permaculture, mais aussi parce que l'invité qui va nous en parler est fan de Cyril La Carrière, ce qui en soi est déjà tout un concept. Alors, à demain, 16h. Bonjour Charline Van Hennecker.
Bonjour Mathieu Noël.
Aujourd'hui, vous recevez une ancienne collègue à nous.
Si vous voulez.
Oui, j'aime la résumer à ça.
C'est, on va dire un personnage de notre petit théâtre politique. Vous voulez dire.
Aussi, surtout. Non, oui.
On reçoit la présidente d'Oxfam France, c'est donc Cécile Duflot.
Évidemment.